Stephen Harper, qui, me semble-t-il, était Premier ministre depuis 2005 ou 2004. Donc ça faisait une dizaine d'années. Et donc voilà, Justin Trudeau a pris les commandes du Canada. Et Justin Trudeau, pendant sa campagne, a expliqué à plusieurs reprises, a promis, je ne sais pas si on peut dire ça, qu'il allait changer la loi sur le cannabis et mettre en place une loi de légalisation, en fait. Ces annonces, et en tout cas le fait qu'il ait été élu, donnent beaucoup d'espoir aux anti-prohibitionnistes qui attendaient un politicien de la sorte depuis bien longtemps et qui espèrent que tout va se mettre en place. Je ne sais pas si on peut dire un peu comme ce qui se fait en Uruguay ou aux États-Unis, je ne sais pas. Je pense que les Canadiens ne feront pas ce que font les États-Unis. Peut-être mettront-ils en place un système un peu hybride entre le Canada, entre les États-Unis et l'Uruguay. On verra. En tout cas, ça suscite pas mal de réactions et pas que chez les anti-prohibitionnistes qui se réjouissent d'avoir Trudeau comme Premier ministre. Mais avant de commencer, juste un truc un peu anecdotique, c'est les Hells Angels qui ont manifesté contre une éventuelle légalisation du cannabis. Je dis éventuelle parce que pour l'instant, rien n'est fait. Hein. Mais voilà, les Hells Angels se mobilisent et sont pas d'accord. Et en fait, pourquoi ? Eh bien, il se trouve que si effectivement la légalisation du cannabis a lieu, eh bien, c'est plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'emplois dans le secteur du crime organisé qui vont tomber, qui vont sauter. Et alors c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment incroyable. En tout cas au Canada, donc les Hells Angels, dont un certain nombre de membres sont impliqués dans des groupes criminels, voient ça d'un mauvais œil parce qu'ils vont perdre leur boulot si Trudeau légalise le cannabis. Je trouve ça super génial, quoi. Parce que vraiment, alors là, c'est clair, quoi, c'est assez franc du collier, en fait, hein, les criminels se mobilisent pour dire non, s'il y a un changement de loi, on perd notre boulot, quoi. Et
là, ils pourraient peut-être rentrer dans le cadre légal.
Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui les intéresse. Ils veulent rester Hells Angels, des rebelles, des je sais pas quoi, des parias. Bref, ils assument. Hein. Mais je trouve ça bien et j'aimerais bien que Manuel Valls se rende compte de ça, en fait, et qu'il voit que dans ce pays-là, par exemple, il y a une mobilisation des criminels contre la loi parce que ça risque de porter un coup fatal à la criminalité organisée. Alors que lui, il nous rappelle, puis lui et d'autres, nous rappellent régulièrement que si on légalise, ça va être la porte ouverte aux mafias. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse, quoi. Et là, pour le coup, c'est les mafias qui se mobilisent pour dire non, ça va pas, ça nous plaît pas. D'ailleurs, il y en a un qui dit, qu'est-ce qu'il a à se mêler de nos affaires ? On lui dit-tu comment gérer son pays, nous autres ? Si Trudeau cherche le trouble, eh bien, il va le trouver, a-t-il assuré à un journaliste. C'est assez rigolo.
C'est rigolo, mais c'est menaçant quand même. Hein.
Oui, en même temps, venant d'eux, on peut pas trop en attendre d'eux, on peut pas trop
justement,
propos,
ouais.
Quoi.
Justement, c'est ces gens-là qui te font des menaces comme ça, à mon avis, tu les prends au sérieux, quoi.
Alors, il y en a un qui dit comme ça, bon là, on parle du cannabis pour la légalisation, il y en a un qui dit, un Hell Angel, qui dit, il est mieux de pas toucher à la coke en tout cas, parce que là, je vais péter ma coche raide. Bon, ça va l'énerver, il va essayer de l'agresser, quoi.
Trop fort.
Voilà, qui légalise le cannabis, dit celui-là, pourquoi pas, mais qui touche pas à la coke. Donc voilà, c'est une manière on ne peut plus claire et évidente de remarquer que le crime organisé n'a pas intérêt à ce que la légalisation du cannabis arrive, contrairement à ce que disent nos politiciens bien mal informés et souvent malheureusement bien malhonnêtes aussi. Donc voilà, pour commencer, c'est un article de Journal de Montréal. Les Hells Angels manifestent contre la légalisation du cannabis, qui n'a encore pas eu lieu. Hein, c'est des projets.
Ouais, dans l'article, il y a la police aussi qui ne voit pas ça spécialement d'un très bon œil. Quoi.
Dans cet article-là ou dans un autre article ?
Non, là, ici, ouais.
Ah oui.
En fait, ils expliquent qu'à la base, la police canadienne n'est pas contre un changement de politique. Mais en même temps, ils doutent qu'une forme de légalisation. Enfin, ils ont peur en fait qu'il y ait plus de problèmes que ce que ça en résout, quoi. Et puis dans l'article, bon, il y a d'autres gens aussi qui s'expriment. Et puis bon, c'est toujours le même discours, quoi. C'est surtout par rapport aux jeunes, quoi. Voilà. On explique aussi que ben ça marche pas avec l'alcool, le fait d'interdire aux moins de 18 ans. Donc on ne sait pas pourquoi ça marcherait avec le cannabis, quoi. Ouais, c'est un petit peu tout ce que j'ai lu parmi les anti-prohibitionnistes.
Les prohibitionnistes,
ouais. Pardon. ce qu'ils peuvent raconter en s'opposant à ce projet. C'est qu'un projet en plus. Hein.
Oui.
Y a pas de détails. Trudeau, il a parlé de légaliser et d'encadrer la vente de marijuana. On n'a pas les détails en fait, hein. On n'a pas les détails du tout de ce qu'il compte faire. Puis plus haut, je vois qu'il devrait attendre 12 à 18 mois avant de légaliser la marijuana, quoi. Donc je pense que le débat il va s'ouvrir aussi au Canada et on va entendre un petit peu tout et n'importe quoi sans doute. Mais en tout cas, s'il lâche pas l'affaire, de toute façon au Canada, au niveau du cannabis thérapeutique, c'est déjà, il y a une très grosse avancée, je crois, hein.
Oui, bien sûr, oui. Alors là, il y a un article qui s'appelle ledevoir.com. Et dans l'article, on peut lire cela, la position de Trudeau demeure vague. Plusieurs croient et craignent que sa proposition de décriminalisation soit en fait celle de la pénalisation, qui ne réglerait en rien les méfaits de la prohibition occasionne, il ne réglerait la question du contrôle de la qualité de la mainmise par le marché parallèle. Donc là, dans cet article, hein, ledevoir.com, on croit même penser que c'est pas trop ce qu'il a voulu. Finalement, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire et qu'on s'est peut-être trompé et qu'en fait, son point de vue profond, en fait, serait de mettre en place une autre loi de répression. Je ne sais pas. Bref, on ne sait pas bien. Moi, je pense pas. Hein. Je pense que Trudeau, dans ce que j'ai pu lire et entendre ces dernières années... Bon, après, les politiciens, il faut jamais leur faire un chèque en blanc. Hein. C'est toujours... leur blabla, leurs paroles, c'est une chose. Après, c'est les actes, hein, qu'on veut voir. On s'improvise pas Rosé Mourica comme ça, même au Canada ou ailleurs. Hein. Pour l'instant, le seul qui les a eus, hein, qui les a portés pour faire une loi, c'était lui. Hein. C'était Rosé Mourica, président d'Uruguay, quoi.
C'est quand même des sujets explosifs quand tu vois que ça fait 3-4 jours qu'il est élu et que les premiers sujets où on explose dessus, c'est la marijuana, quoi.
Ouais.
Je sais pas, mais ça m'impressionne quand même.
Oui, même si on est nous-mêmes militants et pour un changement de politique, on est quand même assez lucide pour aussi être capable de dire et comprendre qu'il y a plein d'autres sujets importants dans un État. Des sujets auxquels les politiques doivent s'atteler, qui passent même avant le cannabis, quoi. Mais bon, bah, c'est vrai que les médias,
d'après.
Ils se jettent dessus et ils font ça, ils font de ça un truc...
Il n'y a pas d'avant d'après, comme disait Coluche, la vie est une chaîne, quoi, hein, donc l'un va pas sans l'autre, quoi. Hein. On voit bien quand même avec le cannabis, c'est pas un sujet anodin, quoi.
Enfin, en tout cas, c'est un sujet que les médias aiment bien placer comme ça, parce que c'est un sujet un peu sensationnaliste. En tout cas, ils le voient comme ça, et on sait bien que pour les médias, dès que c'est sensationnel ou que ça peut l'être, en tout cas, eh bien, ils ne vont pas se gêner pour en parler, en bien ou en très mal, hein, d'ailleurs, au niveau du traitement de l'actualité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cet article Plein de choses, mais bon, on a dit un peu l'essentiel. C'est ça que je voulais. C'est de lui dont je voulais parler, de Marc Boris Saint-Maurice, qui est un président du Bloc Pot, en fait, qui est une association qui milite pour la légalisation, une espèce de cirque canadien, québécois, même plus exactement. Et lui, il dit on est bien ravis et c'est ce qu'on souhaitait. Il est assez content, Marc Boris Saint-Maurice, de voir que Trudeau a été élu. Donc, dans cet article du journal du Québec.com, Il y a différents points de vue et propos qui sont repris, notamment Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur de psychoéducation à l'Université de Montréal et de la revue, directeur de la revue Drogue, Santé et Société. Il dit, voilà, la politique de prohibition, c'est la pire de toutes, donc c'est difficile de croire, de faire croire, de faire pire, pardon, excusez-moi, je suis désolé. Donc je reprends, la politique de la prohibition est la pire de toutes, donc c'est difficile de faire pire, mais tant qu'on n'a pas de détails sur la politique qui va être menée, hein, dans les, précisément, c'est difficile de se prononcer, dit ce professeur d'université. Voilà. Ce qu'on peut lire aussi dans l'article, c'est que dans la plateforme libérale, dans le programme en fait qui était proposé, on peut lire que trop de Canadiens se retrouvent aujourd'hui avec un casier judiciaire pour de la possession de petites quantités de cannabis. Et donc voilà, les promesses entre guillemets du parti qui souhaitait que la consommation et la possession soient retirées du code criminel. Or, dans cet article, on peut lire que des spécialistes soulignent le danger que le revenu potentiel lié à la légalisation devienne l'enjeu principal. Voilà, la crainte qu'on a, c'est que l'argent mène le monde. Bah, ouais. Croit M. Fallu, hein, le professeur de psychoéducation. Si le gouvernement se met à faire la promotion du pot, ça va trop loin et l'État ne joue pas son rôle. Des petites peurs pas très raisonnées, j'ai l'impression. Ensuite, une criminologue de l'Université d'Ottawa, là, Lynn Beauchesne, qui est spécialiste aussi de la question des drogues. Elle dit que les États de Washington, du Colorado, ne sont pas des exemples à suivre pour cette raison. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont des modèles où on risque de perdre le contrôle au niveau de la santé publique. Mais il n'y a pas de modèle parfait, d'après elle. Santé Canada est le ministère le mieux placé pour encadrer cette légalisation, si elle arrive. Du côté du partenariat pour un Canada sans drogue, donc ça c'est les prohibitionnistes, l'inquiétude est vive quant à l'impact d'une telle légalisation sur les jeunes. Et là, bon, bah, toujours un peu les mêmes propos délirants de ces gens. Quand on sait que les jeunes trouvent un moyen de boire de l'alcool avant 18 ans, voilà ce que tu disais tout à l'heure, hein, quelle garantie on aura pour le cannabis voilà, donc
il y a une réflexion à faire.
Voilà, donc elle dit, Madame Beauchesne, la criminologue, que l'important c'est de bien baliser la légalisation. Là, j'étais un facteur important. Si c'est bien expliqué qu'il y a moins de sollicitations auprès des jeunes, ça va apparaître comme plus sécuritaire. Voilà. Ensuite, au point de vue aussi des policiers, là, comme on disait tout à l'heure, l'Association canadienne des chefs de police, cette légalisation soulève plusieurs doutes. Jusqu'ici, on n'a pas assez de recherches qui montrent quels impacts la légalisation aura sur la sécurité publique au pays, indique un monsieur Timothy Smith, responsable des communications au sein de la police. Ce dernier ajoute que l'Association canadienne des chefs de police souhaite que les policiers aient plus de pouvoir de donner des contraventions pour la possession de petites quantités de cannabis. Voilà, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir plus réprimer, en fait. La Gendarmerie royale du Canada et le service de police de la ville de Montréal ont refusé de commenter le dossier quant à eux. Voilà, voilà. Alors, dans cet article, je suis très étonné que tous ces acteurs-là ne nous parlent pas de l'Uruguay, justement. Parce que là, on nous dit, on ne fera pas comme le Colorado, l'État de Washington, il n'y a pas de système parfait. Il n'y a pas de système parfait, mais celui qui s'en rapproche le plus de la perfection, entre guillemets, hein, avec plein de guillemets devant, plein de guillemets derrière, c'est le système uruguayen, si c'en est bien, qui fait office de modèle, quoi. Mais on verra bien ce qui se passe au Canada, on en reparlera sans faute dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que c'est sûr que s'il y a une légalisation qui se met en place au Canada, on le saura, quoi.
C'est clair.
Donc, pas trop de soucis à se faire de ce côté-là, quoi. Voilà, un peu de musique et puis on revient tout de suite après. Et là, normalement, si tout va bien, je devrais avoir le morceau que j'ai pas pu vous passer tout à l'heure. Voilà, tout de suite.
Merci beaucoup, beaucoup à vous. Merci d'être venu. Et si c'est les éjectés, j'espère que ça va bien pour vous. Celle-là est une spéciale dédicace à tous les fumeurs de hashish et de marijuana. Red Ancestor.
S'écouter notre petit morceau qu'on n'a pas pu s'écouter tout à l'heure, donc c'était bien les Éjectés avec le morceau Don't Bogart That Joint, et avant le morceau que j'ai passé avant celui-ci, c'était Orange Street I&I Culture. Voilà, donc voilà, on retourne à l'actu, on va parler un peu de cet édito de Michel Henry de la semaine dernière, un édito un peu rigolo, c'est une lettre qu'en fait envoie monsieur Michel Henry, qui est journaliste à Libération, à monsieur Macron, ministre de l'économie et des finances, c'est ça, ouais. Enfin, l'économie en tout cas. Enfin, ouais. Bon. Donc, cher Emmanuel Macron, puisque vous aimez briser des tabous, il est temps de vous saisir de la question du cannabis et d'expliquer à vos camarades du gouvernement que l'avenir, c'est d'autoriser sa commercialisation dans un marché régulé par la puissance publique. Pas de le laisser aux errements incontrôlés du marché noir. Cela ne va pas être aisé de les convaincre. Rien que dimanche, par exemple, votre bien-aimé président est allé plastronner devant les 7 tonnes de cannabis saisies à Paris, en espérant que cet exploit allait contribuer à porter un coup qu'il espère fatal à des organisations criminelles. Or, toute personne avisée sait qu'en la matière, police, douane et gendarmerie ne sont que des régulateurs. La marchandise saisie sera automatiquement remplacée. La filière éventuellement pénalisée sera suppléée par une autre. C'est la loi du marché, un concept que vous maîtrisez. Une autre initiative récente de votre gouvernement a consisté à faire passer en douce au journal officiel, comme Le Monde l'a révélé vendredi, la possibilité de frapper d'une simple contravention l'usage de stupéfiants. Mais comme cette transaction pénale dépendra du bon vouloir du parquet et que l'usage demeure dans la loi passible d'un an de prison, sa conséquence est difficile à appréhender. Elle peut tout autant adoucir la répression que la renforcer. C'est d'une toute autre réforme dont la France a besoin. De plus en plus de pays ont compris que la production de cannabis pouvait devenir une intéressante filière économique et légale. D'abord pour l'usage thérapeutique de ce produit, dont on ignore toujours par obscurantisme les vertus en France. La Croatie vient d'autoriser cet usage. L'Australie a annoncé son intention de permettre une production légale à cette fin. Aux États-Unis, dans les 23 États, soit près de la moitié, qui autorisent le cannabis thérapeutique, la filière de l'or vert bat son plein. 4 États sont allés plus loin, permettant la vente légale pour l'usage récréatif. Au Colorado, les autorités s'en disent très satisfaites. Dans l'année fiscale 2014-2015, l'État a engrangé 65 millions de dollars, 57 millions d'euros de taxes, soit plus que sur l'alcool. Pendant ce temps, la France dépense chaque année des centaines de millions d'euros pour une répression aveugle, injuste et inefficace. Les 150 000 arrestations annuelles pour usage de stupes, principalement de cannabis, sous l'ère Hollande, plus que du temps de Sarkozy, un exploit dont la gauche devrait se vanter, non ? N'ont pas fait baisser le niveau de consommation. Comment le pourrait-elle ? Les études démontrent qu'il n'y a pas de lien entre interdit et niveau de consommation. Mais en France, on préfère ignorer la réalité et dépenser inutilement l'argent qu'il faudrait consacrer à la prévention très en retard. Alors que la prohibition fait chaque jour, depuis 40 ans, la preuve de son échec, pourquoi ne pas créer un marché régulé du cannabis sous contrôle de l'État ? Des personnes très raisonnables le proposent, comme la députée PS Anne-Yvonne Le Dain, dans un rapport de novembre 2014, comme le think tank Terra Nova, qui, un mois plus tard, suggérait de réguler le marché pour sortir de l'impasse. Un cheval de bataille qu'en libéral assumé, vous ne manquerez pas d'enfourcher. Bien à vous. Voilà. Un petit édito bien sympa. Je ne sais pas ce qu'en a pensé M. Macron. Je crois que M. Macron, d'ailleurs, il lit pas Libération. Hein. Je pense que lui, les pages, les carnets échos du Figaro ou des échos, mais je ne suis pas sûr qu'il lise Libé. Bref. Voilà un peu ce qu'on...
En tout cas, il a bien résumé, quoi. Et ça serait bien qu'il tombe dessus, quoi.
Ouais.
On peut lui envoyer.
Hein. Ouais. Mais les vrais libéraux, hein, même déjà aux États-Unis il y a une trentaine d'années, lorsque Reagan a été président de la République, il avait comme conseiller en matière d'économie un chantre et un ponte du libéralisme qui s'appelle Milton Friedman, quelqu'un d'assez détestable, hein, d'ailleurs au niveau de ses idées et de son éthique. Mais Milton Friedman, à qui Reagan avait demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie des États-Unis ? Et Friedman lui avait dit, bah, le meilleur moyen déjà d'éviter de dépenser de l'argent inutilement, c'est de légaliser les drogues, toutes les drogues. Enfin. Et Reagan, bien évidemment, nous le savons, n'a pas fait ça. Il a plutôt voté des lois qui criminalisent encore plus l'usage de drogue. Il a même fait des lois particulièrement scélérates et dures sur l'usage du crack dans les années 80. Voilà. Donc, globalement, en matière économique, les politiques écoutent les conseillers en matière de, enfin, qui sont des libéraux, mais uniquement en termes d'économie. C'est-à-dire qu'ils ne les écoutent pas pour la santé, ils ne les écoutent pas pour autre chose que l'économie, et globalement, leurs conseils sont pourris, hein, faut le dire, hein, quand on voit le... On voit ce qui s'est passé avec les crises ces dernières années, les spéculations et tout, les dérégulations à tous les niveaux. Globalement, les libéraux et les analystes se sont complètement plantés. Voilà. Alors, du coup, peut-être le seul bon conseil qu'ils ont donné et qu'on n'a pas entendu, c'est ça, c'est de légaliser les drogues et de réguler le marché. Ça, on ne les a pas écoutés non plus. Voilà. Donc, on va parler un peu de Taubira. Maintenant, ouais. Un article du Point qui se pose la question d'un éventuel suicide politique de Madame Taubira. Pourquoi ? Parce que Madame Taubira, par voie de presse, est régulièrement remet sur le tapis des débats de société importants, alors notamment la procréation médicalement assistée. Elle dit, voilà, je pense qu'il y a des débats essentiels pour une société aussi solide que la société française, capable d'absorber ces interrogations et ces débats, ces controverses. Voilà. De la même façon, dit-elle, je pense que sur l'usage des stupéfiants, il faut que le débat ait lieu dans la société. Alors après, elle relativise un peu en disant, ceci étant, depuis 2 ans et demi, je dis que ce n'est pas du oui ou du non, du pour ou du contre, c'est un sujet médical, un sujet important, qui a également des effets sur la sécurité sociale, et donc il faut le traiter en tant que tel. Voilà, alors moi ce qui me fait un peu rigoler, c'est le commentaire justement du journaliste, hein. Est-ce que je vais retrouver le nom du journaliste qui a écrit cet article ? Je trouve pas le nom. Et donc c'est ce journaliste qui s'autorise ce commentaire en se posant la question d'un éventuel suicide politique de Madame Taubira. Moi, je pense que Madame Taubira, en disant tout ça, justement, elle se suicide pas politiquement, elle prend de l'avance sur tous ses confrères, consoeurs, collaborateurs du PS, qui, eux, justement, en disant tout le temps des âneries, notamment sur la question des drogues et pas que, c'est eux qui se suicident politiquement, parce qu'ils ont complètement à côté de la plaque et ils n'ont rien compris. Alors, on vient de parler du Canada, quand on voit ce qui se passe au Colorado, dans l'État de Washington, en Uruguay, dans toute l'Amérique du Sud, ben, elle est en avance, en fait. Hein. Elle est pile poil dans le ton. Voilà. Et c'est les autres, là, les Bernard Cazeneuve, les Valls, les Touraine et compagnie, qui ont tellement aucun courage politique que eux, par contre, alors si jamais tout ça change, plus personne n'entendra plus jamais parler d'eux et on aura même oublié qu'ils ont été aux manettes un jour. Voilà ce que j'en pense. Je sais pas si tu voulais ajouter autre chose.
Oui, je voulais rajouter un truc que j'ai trouvé sur internet, c'est le figaro.fr. Et eux, il y a un article en fait qui explique que le patron des députés socialistes, Bruno Le Roux, alors bon, c'est intéressant parce qu'en fait, les députés, c'est quand même eux qui votent les lois. Lui, il dit qu'il souhaite que la classe politique puisse mener une réflexion sur le sujet du cannabis. Et en fait, il menace, enfin, il prétend que c'est à cause de la droite, en fait, qu'il n'y a pas de débat et pas d'avancée sur le cannabis, parce qu'il dit que dès qu'ils parlent du sujet, dès qu'ils disent le mot cannabis, la droite les traite de laxistes, etc., quoi. Donc, lui, il explique ça en ce moment. Puis l'article, en fait, est revenu sur tous les ministres qui ont osé dire qu'ils étaient, ne serait-ce que pour l'ouverture d'un débat, quoi, hein, même pas pour la légalisation. Alors on a eu Payon,
Duflot.
Ouais, l'article revient aussi pas mal sur qui est pas ministre, mais Vaillant, qui a été
Vaillant, qui a été ministre de l'Intérieur Daniel. Sous Jospin entre 97 et 2002.
Voilà. Qui avait durci d'ailleurs à l'époque.
Les lois de sécurité quotidienne, oui, il a même préfiguré les lois de sécurité intérieure Sarkozy en 2002-2003, et lui avant, en 2001, les lois de sécurité quotidienne en 2001, oui. Mais... qui était un fervent prohibitionniste, et qui, une fois qu'il a pu être aux manettes, comme par hasard, il est devenu plutôt anti-prohibitionniste.
Oui, oui, en fait...
Mais il était plus loin que ça, il n'y a pas juste...
Voilà. Donc l'article revient un peu sur ces personnalités socialistes qui, eux aussi, prônent au moins l'ouverture d'un débat. Par contre, la fin de l'article dit que Emmanuel Valls, en juillet, a déclaré que on peut toujours faire un débat si on veut, mais que sous ce gouvernement, il n'y aura aucun changement, ni autorisation, ni légalisation. Ni... Voilà. Donc, il envoie tout le monde sur les roses, du coup. Hein. À parler si vous voulez, on s'en fout, quoi. Ça, la démocratie, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est cause toujours. Hein.
Oui, oui, on en avait déjà parlé, effectivement, voilà, ce qu'il disait, oui, il y a moyen de débattre, on peut débattre, mais de toute façon, le débat est clos.
Voilà. Mais bon, voilà, l'article disait que ce Le Roux, c'était un proche de Hollande, et que, voilà, pour une fois, c'était un proche de Hollande qui prétendait qu'il fallait quand même bouger sur le sujet, quoi. Mais oui, s'attaquant comme ça à la droite, en disant, nous, on aimerait bien ouvrir le débat, mais si vous nous sautez dessus à chaque fois, on peut rien faire. Bon, là, c'est marrant aussi, quoi. Parce que c'est pas faux non plus, quoi.
Oui, c'est pas faux, mais c'est, la politique, c'est ça, en fait. C'est juste... et notamment, je trouve, un peu en France, c'est pas la première fois que la droite, quand il y a un sujet un peu sensible, au niveau des mœurs, au niveau social, sociétal, bon, ils sont tout le temps contre, de manière véhémente, avec une certaine violence. On le sait, c'est pas nouveau, ça fait des décennies que ça dure. Et c'est sûr que quand en France tu fais de la politique et que tu fais de la politique dans un parti qui se veut être un parti progressiste, qui se veut, hein, j'ai dit, hein, juste qui se veut, il faut avoir du courage et il faut savoir se cogner, se heurter avec des conservateurs qui sont d'une mauvaise foi redoutable. C'est comme ça, quoi. Bon, après, malheureusement, c'est pas si simple et on sait qu'il y a des gros conservateurs aussi à gauche. Voilà. L'avortement en France, c'est Simone Veil qui a fait voter la loi. Elle s'est pas cognée que la droite de son propre camp. Elle s'est aussi cognée tous les conservateurs de France qui étaient opposés. Il y avait des conservateurs aussi à l'époque au sein des partis de gauche, quoi. Voilà.
Ça a été vraiment violent.
Ça a été très violent.
Et ouais, d'ailleurs, elle a rien passé du tout, quoi.
Oui, en fait, elle a été obligée de faire des compromis.
Elle a fait que ça, quoi. Elle a fait que ça.
Et en fait, la loi sur l'avortement, telle qu'elle existe et telle qu'elle est mise en pratique aujourd'hui, c'est pas le projet de Simone Veil au départ, ouais. C'est vrai que...
Puis, bon, il y a eu une évolution avec le temps, mais au départ, bah, c'était juste, je sais plus, quoi. Hein, mais oui, on a le droit de se faire avorter, quoi. Mais je sais plus, enfin... En tout cas, c'était pas remboursé par la Sécu. Voilà, il y avait beaucoup de choses, en fait, qu'elle a pas pu faire passer, quoi. Parce que tout le long, ouais, il y a un film, j'ai vu un film sur le sujet, c'est assez intéressant.
Ouais, voilà. Donc, autre sujet, autre débat, très très intéressant, très important, très très important aussi, et qu'il faut rester aussi vigilant sur ce droit, voilà, qui est de pouvoir disposer librement de son corps. Et globalement, nous les hommes, on n'a pas trop de soucis, parce que forcément, on est dans un monde phallocrate, macho, tout ce qu'on veut, où c'est les hommes qui ont le pouvoir, et bon, bah, nous. On n'est pas concerné, mais en tout cas, voilà, il faut être solidaire avec les femmes et qui se battent pour garder leurs droits, c'est sûr. Donc, on va continuer un petit peu sur la question du cannabis. Je voulais parler un petit peu de cet article, hein, vite fait, de l'Express. Aux États-Unis, la vente de cannabis devrait rapporter $1 milliard. De quoi s'agit-il ? Eh ben, c'est l'Express qui, c'est pas courant, hein, qui se penche sur la question. Alors, c'est un tout petit article, ils n'en ont pas fait une tartine. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Des choses qu'on sait déjà, hein, du fait que pour l'État de Washington, la vente du cannabis, les taxes, tout ça, ça devrait rapporter $1 milliard à la fin de l'année 2015. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre que, bah, on parle aussi du Colorado, où il y a effectivement un marché florissant. L'État du Colorado a été le premier à légaliser. Ils ont déjà récolté $123 millions en taxes. Et, sauf que la constitution du Colorado avait voté un plafond et que du coup, avec la récolte de ces taxes, on est passé au-dessus du plafond des taxes et que du coup, l'État va probablement reverser un trop-perçu aux administrés du Colorado, on en avait déjà parlé, et que pour éviter que cette situation ne se reproduise, des mesures fiscales devraient être prises pour diminuer la taxation de 8 à 10% des prix de vente. Des prix de vente du cannabis, j'ai compris. Je pense que c'est
ouais,
ça.
Donc, je crois
visiblement,
aussi,
ouais. Le cannabis vendu dans les shops, dans les boutiques au Colorado, va baisser de 8 à 10%, ce qui n'est pas rien. 8 à 10%, c'est beaucoup. Et je ne comprends pas, moi, pourquoi ils font ça, s'ils peuvent percevoir plus de taxes. Enfin bon, voilà, c'est la loi du Colorado, il y a un plafond qui est voté, on peut pas... L'État ne peut pas percevoir plus d'argent que ce qu'il doit toucher.
Voilà. Si tu veux comprendre ce qui se passe aux États-Unis, c'est toi-même qui disais que c'est le pays des paradoxes.
Ah oui, oui, les États-Unis, c'est le pays des paradoxes.
Donc...
On sait que déjà, il y a eu, dans tout cet argent qui a été collecté, il y a beaucoup de cet argent qui a été reversé directement dans des écoles. Mmh. On a aussi pu utiliser cet argent pour faire des clips de prévention, des messages, des brochures, des... ils pourraient utiliser cet argent, ce trop perçu encore, pour, faire encore plus de prévention, faire encore plus d'informations. Bon. Après, ça ne nous regarde pas, nous on n'habite pas au Colorado, on n'a pas,
ouais,
on n'est pas
contribuable. Il y a peut-être quelque chose qui les empêche de faire plus de bénéfices, hein, je ne sais
pas. La loi.
Ouais, voilà, la loi.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ça paraît quand même assez incroyable de lire des choses comme ça.
Mais bon, voilà, ça parle que d'argent, par contre. On a
dans cet article de l'Express, oui, c'est uniquement une question d'argent. Là, on ne parle pas du tout de santé, de prévention. On ne rentre pas dans les détails, ouais, effectivement. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre ? Il nous reste quoi ? Ah, il nous reste 9 minutes. Oui, je voulais vous parler de cette petite info. Une info, alors là, pour le coup, extrêmement locale. Ça se passe dans la région, dans la Loire, très exactement. J'ai voulu vous parler de cette toute petite information pour deux choses. Voilà, c'est un article qui nous vient de francebleu.fr, intitulé « Loire, l'alcool reste la première drogue dure dans le département ». Alcool. Ouais. Pour le directeur de l'association Rimbaud. Voilà, donc dans la Loire, hein, c'est vraiment tout à côté de chez nous, hein, nos voisins de la Loire. Donc la Loire n'échappe pas à la problématique de la consommation des drogues légales comme l'alcool ou illégales hein, comme le cannabis, la cocaïne et l'héroïne. Mais dans le cadre de cette visite, les journalistes de France Bleu donc rentrent en contact avec le centre d'addictologie à Saint-Étienne, mais qui est aussi à Rouen. Et voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir lire ça, de voir que dans la Loire, en tout cas pour ces spécialistes en addictologie, eh bien la première drogue dure n'est pas l'héroïne, n'est pas la cocaïne, mais c'est l'alcool. L'alcool, eh oui. Alors la consommation de cannabis n'a pas forcément augmenté, mais l'association Rimbaud, qui est un centre d'addictologie donc dans la Loire, reçoit de plus en plus de jeunes consommateurs de cannabis, c'est pas dit, mais c'est ce qu'il faut comprendre, reçoivent de plus en plus de jeunes. Pourquoi ? Parce que les tribunaux proposent de plus en plus de mesures alternatives à la prison. Et ça, c'est quand même bon signe. Dans la magistrature, il y a quand même de plus en plus de personnes qui se rendent bien compte que cette loi de 70, d'une part, elle est inapplicable, elle est injuste, et que il faut pas faire ça, quoi, tout simplement. Alors, on nous dit que la consommation de cocaïne est en revanche est en augmentation, une augmentation lente mais progressive, ce qui est déjà apparu dans les recherches effectuées par l'OFDT pour savoir les tendances de consommation. Et Loewenstein aussi l'a dit à plusieurs reprises, qui est un addictologue parisien, qu'on met tellement la pression sur le cannabis qu'on en oublie de parler de la cocaïne. Et s'il y a bien un produit dont la consommation a augmenté en France, et c'est bien la cocaïne ces 10 dernières années. Voilà. Également dans cet article, un témoignage d'un usager de cannabis et de cocaïne venu au centre Rimbaud et qui est venu suite à une décision de justice dans le cadre d'une obligation de ce soin. Et je n'ai pas repris l'interview, mais on nous dit quand même que c'était soit il venait au centre, soit à la prison. Donc voilà. C'est pas forcément super positif non plus s'entendre dire voilà, c'est où ça ou la prison au niveau du soin. Bon, c'est ça va pas quoi. Mais bon, ce qui est pas mal quand même, c'est que les magistrats essaient de faire en sorte qu'on en les envoie plus en prison quoi. Ça, c'est plutôt positif. C'est compliqué tout ça, hein, c'est compliqué. Voilà, je crois que je sais pas si on aura le temps de parler de cet article de l'ONU à propos de l'ONU qui est paru dans vice.com. C'est Richard Branson qui divulgue un document de l'ONU qui prône la dépénalisation de l'usage de drogue. Alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est pourquoi Branson en parle, lui. Alors, ce qu'on comprend dans l'article, c'est qu'en fait, même si au niveau de l'ONU, on s'apprête à publiquement communiquer de la sorte au niveau des drogues, il y a encore des résistances, que c'est pas un sujet si simple à aborder, même au niveau de l'ONU, et que on peut comprendre que au niveau international, il y a pas mal de pays qui sont pas prêts à ratifier ou en tout cas aller dans le sens de cette déclaration que pourrait faire l'ONU.
C'est un document qui devait rester secret.
Et c'est un document qui devait rester secret, voilà.
Et que lui, justement, s'est fait un plaisir de divulguer, Branson.
Ouais, parce que il voulait pas que ça passe aux oubliettes. Mmh. Voilà. Alors, il y a un gouvernement quand même qui aurait fait pression sur l'ONUDC, qui est l'agence onusienne de contrôle des drogues. Au moins un gouvernement a fait pression sur l'ONUDC pour que l'agence onusienne ne révèle pas le document. Voilà. Le pays en question, je ne sais pas lequel c'est, ils ne le disent pas. Alors espérons que l'ONUDC, une organisation mondiale qui fait partie de l'ONU et qui est censée faire ce qui est bon pour les peuples du monde, ne fasse pas un volte-face de dernière minute et ne craque pas sous la pression en ne poursuivant pas son action, écrivait Richard Branson. Alors les journalistes de Vice News ont cherché à savoir auprès de l'équipe de Branson s'ils savaient si le texte avait été approuvé par la hiérarchie de l'ONUDC. Et au moment où nous publions ces lignes, son équipe n'a pas encore fait suite à notre démarche, notre demande. Donc au moment où l'article est publié, c'est-à-dire c'était le 20 octobre dernier, c'est-à-dire mardi dernier. Mmh. Voilà. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais ça s'agite là-haut. Il y a du vent.
Ouais, il faudrait qu'on revienne là-dessus.
On reviendra. Mmh. Parce que c'est pas nouveau qu'on sait qu'au niveau de l'ONU, ils sont presque sur le point... De faire ce genre de communiqué.
En fait, ils ne savent pas comment le passer, non?
Oui, je crois que c'est ça. Hein. Et oui, parce qu'en fait, voilà, en fait plein d'organisations, plein d'ONG ou d'organisations un peu proches des gouvernements, mais sur la santé. Alors, par exemple, l'ONU-SIDA, l'Organisation mondiale de la santé, le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l'homme, le UNDP, alors ça j'ai pas convu, ça, je sais pas ce que c'est, le Mouvement des femmes pour l'ONU, Kofi Annan et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, donc tout ce monde-là, et puis d'autres, hein, je vais pas citer tout le monde, disent que ouais, il faut changer la politique internationale sur les drogues et qu'il faut complètement revoir tout ça et travailler plutôt en direction de politiques qui préservent les droits humains et la santé, et plutôt que la criminalisation des usagers qui sont source d'injustice, de discrimination, le racisme, tout ça. Bon, mais ouais, comme tu dis, c'est quand même un sujet tellement compliqué, tellement tabou, puis ça fait tellement longtemps qu'ils disent qu'il faut lutter, criminaliser, ça fait tellement longtemps que ça dure.
Mais en tout cas, ça serait bien que ce soit justement ouais. l'ONU qui s'y colle, quoi. Du coup, nous, on est là à parler de la France, en fait, on n'en a rien à foutre, à la limite, voilà, l'ONU prend une telle décision, et puis c'est parti, quoi.
Oui, oui, oui.
Alors, on rappelle après, c'est toujours la forme que ça peut prendre, quoi, dans chaque pays, hein, parce que
oui, oui, bien sûr.
Changement de politique, c'est pas forcément non plus la recette pour que tout se passe bien, quoi, pour tout le monde. Hein. Ils peuvent nous en faire des vertes et des pas mûres. Hein. Voilà, voilà.
Ouais. Donc voilà, on reviendra sur ce sujet juste au passage pour vous rappeler que au niveau de l'ONU, c'est un certain Harry Anslinger qui avait fait en sorte que l'ONU, avec la déclaration unique des stupéfiants en 61. Voilà, c'est arrivé comme ça à l'ONU en 61 par l'intermédiaire de ce Harry Anslinger qui avait voté le Marijuana Tax Act au Parlement, au Congrès américain en 1937 et qui est donc malheureusement le père de la prohibition américaine et internationale des drogues, enfin du cannabis et des drogues en fait. Mmh. Si ce monsieur n'avait pas existé, s'il n'avait pas fait toutes ces cochonneries, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Voilà,
donc, ouais, il y en a peut-être d'autres qui auraient pris le relais un peu après, quoi.
Oh, lui, il est fort, quand même.
Ouais, il est fort.
Ah, lui, très, très fort.
Hein. On a une as aussi dans ce style qui a bien suivi lui, sa politique, quoi.
Lui, c'est un niveau au-dessus. Hein.
Ah, ouais.
Nas, ouais, c'était un conseiller, machin, mais lui, vraiment, il était très fort, quoi. Voilà, Anslinger, bon. Voilà, on va se quitter là-dessus. J'avais une petite info. Non, on n'a pas parlé de l'usage des drogues au travail. Un article du Parisien.fr du 22 octobre dernier. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Voilà, nous allons nous quitter là-dessus. C'était l'émission Cannabis Circus. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés une fois de plus. Merci à Isabelle, à Michel qui nous écoutent tous les lundis et d'autres tous les
puis à Raphaël.
Et Raphaël aussi, bien sûr.
Raph.
Qui nous écoute régulièrement.
Et à Jeff ce soir qui nous écoute. Bon, on ne va pas tous les énumérer parce que j'espère qu'ils vous êtes une
centaine.
C'est
la fin de Cannabis Circus. Ça va être Chasseur de son bientôt avec un invité, avec un live en prévision. Donc ne zappez pas, restez à l'écoute de Radio Canu. 102.2 MHz, c'est la plus rebelle des radios. Bonne soirée à toutes.
Bonsoir.
Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Au revoir et merci de votre fidélité.